Invité de marque cette semaine, je dirais, avec un journaliste plus que reconnu. On a notre collègue Nicolas Richard qui travaille à La Presse, mais enfin, on a un vrai journaliste de La Presse, Philippe Quentin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Hey, merci de m'avoir invité, Alexandre.
Avant qu'on tombe dans le vif du sujet, bon, à chaque année, tu couvres à peu près tous les sports qui puissent exister. Là, tu touches un peu à tout. Le tennis, ça se situe où dans les sports que tu préfères, là, si tu avais à faire une espèce de classement? Là?
Ah ben c'est pas mal dans le top 3, top 4. J'aime beaucoup le hockey, évidemment, le football, bien sûr. Puis j'aime beaucoup le tennis et le golf. Mais le tennis, ça a toujours été important pour moi parce que j'ai vu des performances tellement sensationnelles qui m'ont tellement marqué au fil des années. Tu sais, j'oublierai jamais... Il y a plusieurs années de ça, au début des années 2000, 2001, 2002, je ne me souviens plus de l'année exacte, là, un match au US Open d'André Agassi qui s'était terminé tard dans la nuit, 5-7 de mémoire, c'était contre James Blake et les deux gars étaient épuisés et puis là, il est rendu quoi, 1h30, 2h, puis là, ils interviewent Agassi qui vient de gagner sur le terrain, puis on lui demande hey, tu dois être tellement content d'avoir gagné ce match-là. Et là, Agassi, qui était tellement formidable en entrevue, dit c'est pas moi qui a gagné ce soir, c'est le tennis qui a gagné. Une phrase comme celle-là après 5 heures sur le terrain épuisé, je sais pas, ça m'a toujours marqué cette histoire-là. Puis tu sais, j'ai toujours beaucoup aimé le tennis masculin et le tennis féminin. J'ai été un gros, gros fan de Martina Hingis quand elle était championne. Je trouvais qu'elle jouait un tennis qui était tellement créatif qu'on voit moins aujourd'hui où il y a plus de puissance. Et puis là, ben évidemment, cet intérêt-là, j'ai eu la chance de couvrir Wimbledon à quelques reprises. J'ai couvert le match de la médaille d'or aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Ça a été un grand moment aussi. Andy Murray qui a gagné l'or contre Roger Federer. C'est bien la seule fois où la foule de Wimbledon a pris contre Federer. C'était très, très particulier d'entendre ça. Puis là, bien sûr, avec la montée de nos Canadiens, de nos Québécois, c'est sûr que ça renforce encore mon goût puis ma passion pour le tennis.
Et là, tu as parlé du match de James Blake contre Agassi, qui est un match, je pense que beaucoup de monde s'en souviennent. Moi, je m'en souviens aussi. Mais si tu avais à choisir ton plus beau souvenir là, parmi peut-être ceux que tu as nommés ou peut-être un autre là, dans le monde du tennis, ce serait quoi?
Bien, je pense qu'au niveau de l'émotion pure, c'est peut-être le match dont je viens de parler, le match de la médaille d'or. Il y a quelque chose de très particulier aux Jeux olympiques, contrairement à un tournoi du Grand Chelem ou les tournois là, de l'ATP ou de la WTA, c'est que la foule n'est pas pareille. La foule crie beaucoup, la foule encourage, un peu comme en Coupe Davis, si tu veux. Et ce match-là, c'est ce qui m'avait le plus fasciné, c'était de voir comment la foule de Wimbledon, j'avais déjà couvert le tournoi de Wimbledon bien des années auparavant, dans les années 90, tu sais, tout le monde applaudit, c'est bien, il n'y a pas de... c'est, tout le monde est à son mieux. Mais là, dans ce match-là, c'était pas ça. Tout à coup, Federer envoie une balle dans le filet, une faute directe, puis le monde est debout pour applaudir. T'sais, même Federer, après, en conférence de presse, avait avoué à quel point il a été surpris. Puis 4 ans plus tard, à Rio, j'ai couvert un match, je me souviens plus si c'était la finale, mais je pense que oui, et c'était Del Potro qui était là. Et Del Potro, c'est un Argentin, donc il y avait beaucoup, beaucoup d'Argentins qui étaient venus voir la finale. Et encore une fois, je me suis retrouvé plongé dans cette ambiance-là, qui était une ambiance de match de soccer, bien plus qu'une ambiance de match de tennis, les gens l'applaudissaient. C'était absolument extraordinaire de voir ça. Et je pense que ça m'a beaucoup marqué, ces deux événements-là, pour ceux auxquels j'ai assisté sur place.
En tout cas, avec raison, parce que ce sont deux événements, bon, tu sais, je veux dire, des finales olympiques, c'est difficile d'avoir plus gros que ça. Et puis, je peux comprendre, en 2012, une finale olympique à Wimbledon sur le terrain, en tout cas, à mon avis, à moi, le plus prestigieux de tennis au monde. C'est incroyable. Alors, il y a un peu de jalousie de mon côté, j'avoue. j'aimerais ça avoir la chance de couvrir ces événements-là un jour.
Je te le souhaite, parce que c'est extraordinaire.
Ah, j'en doute absolument pas. Puis, tu en parles avec un beau sourire. Puis, encore, en tout cas, je vois que les souvenirs sont frais dans ta mémoire. En tout cas, ils ont l'air très clairs. Alors, j'espère pouvoir, moi aussi, aller chercher des souvenirs de ce genre-là. Maintenant, Philippe, si on t'a invité, c'est parce que moi, je considère que bon, t'es un des experts pour pouvoir parler de sport, mais également de façon plus globale de ce que ça peut représenter dans la société. Et là, bon, comment dire, présentement, il se passe des choses qui sont... pas mal plus grande puis pas mal plus grave que des victoires ou des défaites. Et je voulais qu'on puisse parler avec toi de bon, ce qui se passe en Ukraine présentement, comment ça peut affecter le sport puis comment ça peut affecter le tennis selon toi.
Bien, ça affecte déjà énormément le sport. On a vu toutes les décisions qui ont été prises par plusieurs pays, des fédérations aussi, de faire l'impasse sur les équipes russes, sur les athlètes russes. Je pense que c'est un mouvement qui va prendre beaucoup d'ampleur. On l'a vu même hier ici au Canada quand Wayne Gretzky a suggéré que l'équipe russe ne soit pas invitée au prochain championnat mondial de hockey junior. Là, on se souvient que le championnat devait avoir lieu dans le temps de Noël. Ça a été repoussé en raison de la COVID. Ça va avoir lieu l'été prochain. Et Gretzky qui dit « Écoutez, les Russes ne devraient pas venir ici ». Au soccer, la Pologne a dit qu'elle ne voulait pas jouer contre la Russie dans un match de qualification pour la Coupe du monde qui aura lieu le 24 mars. La Russie pourrait, si elle battait la Pologne, si ce match-là a lieu, pourrait jouer ensuite contre la Suède. Mais déjà, la Suède a dit qu'elle ne voulait pas non plus affronter les Russes. Il y a déjà deux équipes de la KHL qui sont établies ailleurs qu'en Russie, qui se sont complètement retirées au moment où les séries éliminatoires vont commencer. Alors, le mouvement ne fait que commencer. Et là, dans le moment, il se passe, je pense qu'on peut diviser ça en deux. C'est-à-dire que les équipes russes qui représentent leur pays, là, dans le moment, ce sont vraiment elles vers qui la pression est forte là, pour qu'elles ne participent pas aux différents matchs. Par contre, pour les athlètes individuels, on n'en est pas encore là. Alors, tu sais, pour le soccer, par exemple, il y a des équipes. L'équipe, la Pologne, dit « Nous, on ne veut pas jouer contre les Russes. » Et d'ailleurs, leur grand joueur au Polonais, Robert Lewandowski, qui joue pour le Bayern de Munich, a dit « C'est pas de la faute, on n'a rien contre les joueurs russes, on n'a rien contre les partisans russes, mais on ne peut pas accepter de jouer contre ce pays-là au moment où il envahit l'Ukraine. » Mais il n'y a personne encore qui a dit « Moi, je ne veux pas jouer contre Daniil Medvedev » ou « Moi, je ne veux pas jouer contre Andriy Rublev ». Est-ce que ça va arriver? Ce n'est pas impossible. Et il y a des pays qui vont avoir des décisions à prendre aussi. Là. On regarde au tennis, on arrive sur la saison aux États-Unis là, qui va commencer bientôt avec les gros tournois aux États-Unis. Qu'est-ce que les Américains vont faire? On sait que les sanctions augmentent presque à chaque jour, des sanctions économiques, bien sûr, mais déjà, il y a beaucoup de pays qui ont interdit l'espace aérien aux vols russes. La Russie a interdit leur espace aérien aux pays qui ont appliqué cette sanction-là. Alors, même les déplacements peut-être des joueurs russes, s'il y en a qui étaient retournés en Russie, là, ils vivent évidemment pas tout cela, mais ça peut complexifier les choses. Mais j'ai l'impression que le prochain grand débat, ça va être ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les athlètes individuels dans le sport individuel? Est-ce qu'on les invite? Oui ou non? Et qu'est-ce qu'on fait avec les Russes qui jouent dans des ligues? Par exemple, les Russes dans la Ligue nationale de hockey, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'on leur permet de continuer à jouer? Oui ou non? À mon avis, ça va être ça le prochain grand débat.
Salut Philippe. Donc, effectivement, il y a eu plein de choses ce week-end, notamment Roman Abramovich là, de Chelsea, ouais, qui se retire de la présidence pour l'instant. Donc, c'est des gestes importants. Mais c'est quand même ironique que le jour où Daniil Medvedev devient numéro un mondial officiellement aujourd'hui, après 18 ans de domination du Big Three ou du Big Four, ouais, son memory, il se retrouve dans une situation un peu épineuse. Donc, comment tu vois les prochaines semaines, là, justement, pour les Karatsev, Rublev, qui sont aussi champions de la Coupe Davis en plus, en passant? Donc, c'est un peu malaisant pour eux. Là. Comment tu sens le circuit réagir à ça? Et peut-être les foules du côté américain, évidemment, avec Indian Wells et Miami qui s'en viennent.
Ouais, voilà, ben, c'est ça. D'abord, est-ce qu'ils vont être admis aux États-Unis? On verra bien. Puis comment les gens vont réagir, je ne sais pas. Je pense que pour qu'ils puissent jouer aux États-Unis, il va falloir qu'ils donnent des entrevues très claires dans lesquelles ils dénoncent l'invasion en Ukraine. Et dans le moment, ils ont dit qu'ils veulent la paix, ils ne veulent pas la guerre, non à la guerre, non à la guerre. Mais ils n'ont pas encore condamné nommément Vladimir Poutine, chef de l'État russe. Ils n'ont pas nommément dit, tu sais, la Russie doit sortir de l'Ukraine. Et ça, je pense qu'un jour, et avant longtemps, ils vont être obligés de le faire parce que sans ça, on va leur dire qu'ils ne vont pas assez loin. Et là, tu reviens aussi avec la Coupe Davis et les tournois d'Indian Wells et de Miami. Je vois une différence entre les deux parce que dans la Coupe Davis, là, les athlètes représentent vraiment le pays. C'est la Russie. Alors ça, est-ce qu'on va permettre aux Russes de participer à des compétitions internationales? Moi, je pense que d'ici la fin de la semaine, mon opinion, c'est qu'ils vont probablement être exclus d'à peu près toutes les compétitions internationales. Par contre, s'ils vont à Indian Wells ou à Miami, Là, ben, ils sont russes, bien sûr, mais ils ne représentent pas nécessairement la Russie. Ils représentent plus eux sur une base individuelle. Est-ce que cette espèce de ligne-là, cette ligne de démarcation-là, est-ce qu'elle va être respectée longtemps? Oui ou non, je ne sais pas. Mais chose certaine, pour tout ce qui est équipe russe, et en Coupe Davis, c'est une équipe russe, je pense que moi, je vois mal comment on pourrait continuer d'accepter leur participation dans des compétitions internationales.
Que le numéro 1 et le numéro 2 maintenant, Djokovic, soient tous les deux dans une situation un peu délicate pour poursuivre leur performance sur le circuit cette année. Encore une fois, comment tu vois la suite là, pour un Djokovic? On sait que bon, c'est mal parti pour qu'il puisse jouer les prochains Masters 1000, mais le numéro 1 et le numéro 2 sont dans une situation en ce moment où peut-être que leur saison va être écourtée quand même.
Ouais, ben, je pense qu'il ne faut pas vraiment faire de parallèle entre les deux. Les circonstances sont tellement différentes. Djokovic, bien sûr, c'est lié à la COVID, au fait qu'il ne veut pas être vacciné. Lui, il doit se croiser les doigts puis espérer que les contraintes sanitaires partout dans le monde diminuent encore plus rapidement. Et on le sait, il y a un mouvement là, dans ce sens-là. On le voit au Québec, dans l'ensemble du Canada, un peu partout dans le monde, surtout à l'approche du beau temps, espérons-le, le printemps et tout. Donc, peut-être que les consignes vont devenir plus souples et peut-être que ça va lui permettre de participer au grand tournoi. Mais on n'en est pas encore là à l'heure actuelle. Lui, il a dit que, bon, il continuait. S'il ne peut pas participer, il ne participera pas parce qu'il n'est pas question qu'il se fasse vacciner, en tout cas, dit-il pour l'instant. Donc, lui, j'ai l'impression qu'il est un peu l'artisan de son propre malheur. C'est lui qui se place dans cette position-là. C'est son propre choix. Dans le cas de Medvedev et des autres joueurs russes, c'est totalement différent. C'est pas leur décision. Et ils sont entraînés dans ce tourbillon-là parce qu'ils sont des Russes. Alors, la situation est nettement différente et ils peuvent pas faire grand-chose eux-mêmes. Mais encore une fois, c'est toute une question de symbole, de symbolique. À l'heure actuelle, la Russie est mise au banc du monde occidental, du monde démocratique. Est-ce qu'on va commencer à faire des exceptions pour des joueurs de tennis parce qu'on aime bien ça, regarder un bon match de tennis avec le numéro un au monde? Moi, je pense pas que ça va durer très, très longtemps comme acceptation, là.
En même temps, moi, mon travail dans la vie, c'est de travailler avec des athlètes. Je travaille avec des athlètes à tous les jours de ma vie. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils sont quand même, d'une certaine manière, victimes d'un système dont ils ne sont pas tous en accord avec ça. Donc, est-ce que d'une certaine manière, si on bloque tous les athlètes russes sans faire d'exception, est-ce qu'on ne pénalise pas des athlètes pour des opinions avec lesquelles ils ne sont absolument pas d'accord? On a vu, c'est le cas d'Andrei Rublev qui est sorti, honnêtement, ça expose peut-être à des choses particulièrement dangereuses en disant non, pas de guerre. Est-ce que c'est correct pour les athlètes, même si on le fait d'un point de vue symbolique, de les bloquer de toute compétition internationale?
Moi, je pense que le raisonnement que tu tiens, il se défendrait dans des circonstances normales. Bien sûr, ce n'est pas des circonstances normales, mais dans des circonstances où le niveau de tension mondiale ne serait pas le même que celui qu'on retrouve aujourd'hui. Je pense que là, on est dans un autre niveau, dans un nouveau paradigme que nous, de notre vivant, on n'a jamais connu. C'est ce qui se passe. Là. On n'a pas vu ça depuis la Seconde Guerre mondiale. On a un pays, la Russie, qui envahit un pays souverain, libre et démocratique parce qu'ils ne sont pas contents avec le régime puis qu'ils disent « on va changer le gouvernement ». Puis bon, là, finalement, le pays en question se défend bien plus que ce que, sans doute, les Russes pensaient. Alors, on est à un autre niveau. Et en fin de semaine, Vladimir Poutine a mis ses armes nucléaires dans un état d'alerte plus élevé. Alors là, juste avec ça, là, on réalise qu'on vient de changer. Là. On n'est plus du tout dans une querelle géopolitique habituelle qu'on voit souvent. C'est pas ça. Là. C'est une autre affaire. Là. C'est quand le président de la Russie dit on va hausser le niveau d'alerte des armes atomiques, je pense qu'il faut comprendre que la situation est très dangereuse et que les façons de réagir traditionnelles ou ce genre de philosophie de dire « oui, mais la responsabilité individuelle versus la responsabilité collective, les athlètes, ils veulent sans doute pas ça », c'est vrai, mais tout à coup, il faut mettre de la pression sur le pays. Et c'est un peu aussi ce qui se produit sur le plan économique, avec toutes les sanctions qui sont prises contre les oligarques russes. L'objectif, bien sûr, qui est peut-être non dit, mais c'est clair, c'est que ces gens-là éventuellement mettent de la pression sur leur gouvernement. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Est-ce qu'ils ne pourront pas le faire? bien malin qui peut le dire. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, Poutine semble prendre toutes les décisions lui-même. Mais c'est ça l'idée. Et moi, je pense que dans l'état actuel des choses, la situation est à un niveau de gravité tel dans le monde au moment où on se parle qu'on n'a plus tellement le temps de se poser ces questions-là. Oui, mais lui, puis tout ça, je pense qu'on n'en est pas là pour l'instant. Ça, c'est trop, l'escalade a été trop forte tellement rapidement et je pense qu'il faut falloir prendre les mesures qui s'imposent.
Quand on voit des Rublev et des Pavlyuchenkova s'imposer et dire leur façon de penser contre la Russie littéralement, toi, à ton souvenir et à ton expérience, est-ce que c'est arrivé souvent que des athlètes russes ont pris position contre dans des grands conflits internationaux comme ça, ou est-ce que c'est une première qu'on voit une vague? T'sais, même Daniil Medvedev a dit, OK, là, il y a des choses pas mal plus importantes que le tennis qui se passe. Il n'est pas allé aussi loin que Rublev, mais quand même, c'est quand même assez phénoménal parce qu'il s'expose à des choses particulièrement dangereuses. Est-ce que c'est une première, selon toi?
Oui, je pense que c'est une première. On n'a pas vu ça dans le passé, mais encore une fois, c'est une situation qui est absolument hors de l'ordinaire, quelque chose qu'on n'a jamais vu, qui est très, très inquiétant. Mais encore une fois, je pense qu'il devrait y aller encore plus fort dans leurs commentaires. Puis je pense aussi qu'il y a des joueurs de la Ligue nationale de hockey qui devraient le faire. Tu sais, c'est bien beau, là, Ovechkin qui dit « je suis pour la paix, je suis pour la paix », mais aux dernières nouvelles, en tout cas, quand j'ai vérifié en fin de semaine sa photo de profil sur Instagram, c'était encore lui avec Vladimir Poutine. Alors, tu sais, tout à coup, là, il faudrait peut-être être un petit peu plus conséquent. Alors, oui, mais ça va en prendre plus que ça, à mon avis. Puis je pense que ça va prendre des condamnations encore plus sévères par les athlètes russes. Et je sais que c'est très difficile. Ils s'exposent, oui, sûrement à un ressac terrible, peut-être eux, peut-être les membres de leur famille. Mais tu sais, la situation, là, dans le moment, elle est vraiment très, 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 très mauvaise. Puis on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Russie, les sanctions économiques qui commencent déjà à faire un effet très, 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 très important. La valeur du rouble qui a chuté d'à peu près de moitié. La bourse, le marché boursier russe qui est fermé pour la journée parce que ça aurait été une hécatombe. Alors, les sanctions économiques vont être énorme. Alors, je pense que dans l'ensemble des sanctions qui sont là pour les Russes, je ne pense pas que le sport, d'une façon ou de l'autre, devrait faire exception à ça, personnellement.
Oui, bien, comme je disais, Daniil Medvedev l'a dit, en ce moment, il y a des choses pas mal plus importantes que le sport se passe, c'est la victoire et la défaite. Philippe Quentin, on peut te lire dans la presse, on peut t'entendre au 98.5 et on peut te voir également à RDS. Est-ce que j'oublie quelque chose?
Non, c'est bien assez. On peut m'entendre sur ton podcast aussi.
Ben voilà, ben tu reviens absolument quand tu veux. Ça va nous faire plaisir.
Ça va me faire plaisir, Alexandre.
D'avoir un autre journaliste de la presse. Merci infiniment pour ton passage et ben au plaisir. Puis on
te reviens quand tu veux.
Excellent, merci de votre invitation.